Là, il y a aussi quelque chose qui ressort un peu du peu dans ton exposé, et c'est une projection collective de l'idée selon laquelle la santé et l'éducation, c'est le papa appelé production de l'homme par l'homme, sont un coût. Elles sont un coût parce qu'elles sont non marchandes. Mais d'un coup, quand elles deviennent marchandes, elles ne sont plus un coût parce qu'il y a cette idée, disons, bon, pénétrée, disons, les esprits, selon lesquels les non-marchands se financent à partir d'un prélèvement sur les non-marchands. Alors que, imaginons, en poussant les raisonnements simplement à la limite, que dans la société disparaîtrait, disons, les marchands, est-ce que pour autant il disparaîtrait, disons, la production, disparaîtrait la consommation? Bien évidemment que non. Disons. Au contraire, santé et éducation, et ça, par ailleurs, c'est ce qui affirme de plus en plus les économistes, disons, sont les moteurs de ce qu'on appelle une économie fondée sur la connaissance. Parce que ce serait ces facteurs qui expliquent pourquoi le capital immatériel est devenu autant important, est devenu le facteur principal de la croissance. Ce qu'Éric vient de dire, et c'est le cas des économistes de l'OCDE, est que ce secteur qui produit le capital immatériel, c'est-à-dire les hommes, est en grande partie lié aux institutions de l'État-providence. Et justement, lorsqu'on est dans une phase, on exerce une pression énorme pour privatiser ces services publics. Je pense que là, il y aurait vraiment besoin collectivement d'élaborer un discours qui va à l'encontre de ces lieux communs répandus. Ça, c'est là, sans négliger le fait que, bien évidemment, il y a plein de points sur lesquels une organisation meilleure peut être apportée. Mais c'est que. Ça aussi de ton exposé, c'est qu'il y avait une première phase, je dirais, jusqu'aux années 70, dans laquelle il y avait un secteur de la santé publique en expansion, au fond avec une conception taylorienne du corps du malade. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si la production s'exerçait sur un corps comme si c'était de la matière inanimée. Moi, j'avais vu un petit peu aussi plus tard, disons, à Necker, à l'Institut de Péricultur, mais il y a encore une dizaine d'années, dans l'attitude de la rapport à la douleur, disons, après, avec des percées, disons, très importantes, disons, comme celle qui a effectué, où s'occuper de la douleur, c'est vraiment remettre au sens, disons, de l'activité, ce qui est propre d'une production de l'homme par l'homme, c'est-à-dire contre, disons, la logique, disons, taylorienne. Et là, on ouvre presque sur la prospective, et là, on pourrait aussi rationaliser la production, d'une autogestion, et d'une coproduction, disons, de ces services, qui implique non seulement un médecin enfermé, mais aussi étroitement les usagers. Alors, une question que je voudrais te poser, c'est quel obstacle on rencontre, disons, sur cette perspective, à partir aussi de ce qu'il y a quelques années avait été le moment, disons, des infirmières, de la coordination des infirmières. Après, maintenant, j'ai l'impression, et on le subit, disons, terriblement, que de cet taylorisme qui était une pensée avec une expansion, disons, des ressources, qui était un taylorisme de la pensée du corps du malade, d'une matière inanimée, maintenant, on est en train de passer à un taylorisme lié à la création d'une pénurie de ressources. De telle sorte que, par exemple, bon, il y a de moins en moins des infirmières, donc ils n'ont plus le temps de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, à part l'acte matériel proprement dit, dialoguer, parler avec les malades. Juste après, c'est justifié, comme tu l'as dit. Mais alors, je préfère aller dans le privé, parce qu'on mange des conditions de vie meilleures. Voilà, c'est un peu.
C'est-à-dire, je vais te poser aussi une petite question. Qui est la suivante. C'est-à-dire, nous, on a, dans notre travail, essayé de comprendre aussi, justement, comme disait Carlo, cette relation entre acte et geste vers un humain. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, un exemple tout à fait stupide, mais que tu puisses comprendre. Une fois, quand on faisait une réflexion sur le travail entre les matériels, etc., on a dit, bon, voilà, quelle est la valeur ajoutée d'une call center, c'est-à-dire quelqu'un qui t'appelle, etc., ne sait pas répondre sur l'objet. Et dans la réalité, il y a tout un travail pour l'accueil, c'est-à-dire il faut sourire, il faut être doux, il faut comprendre, il faut être. D'accord. Et donc, on disait, mais c'est un travail de merde, mais regardons toute cette partie-là comme fondamentale, car autrement, ce type de service, c'est-à-dire, perdre sa nature. Donc, tout le travail qui est fait, par exemple, c'est justement d'introduire cette notion de rapport humain, okay, comme élément, comme valeur ajoutée. D'accord. C'est pas la réponse en disant, bon, voilà, quel est mon forfait, est-ce que j'ai consommé, est-ce que j'ai peux résilier. Et dans la réalité, le différentiel dans les services, d'accord, c'est la relation avec l'homme, c'est-à-dire la relation par laquelle l'objet de ce dialogue est qualitatif. Mm-hmm. Donc, malgré que tu fais un travail de merde, il faut que tu aies à toi une aptitude à communiquer, à être, à entendre et à répondre. Voilà. Pour faire le parallèle de Carlo, quand on utilisait cette notion de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un service, une marchandise, etc., quelle est la valeur ajoutée que tu peux considérer quand tu fais un geste et ensuite tu as une personne, un enfant, un être humain qui souffre. C'est-à-dire, quelle est la différence entre faire un geste...
Quand tu dis valeur ajoutée, tu dis...
Valeur ajoutée, c'est si je l'introduis dans l'idée marchande, non? C'est-à-dire, il y a un acte vers l'individu, c'est-à-dire, par exemple, tu as fait tout ce discours d'avoir introduit la notion de souffrance, et donc d'enlever la souffrance des actes, c'est effectivement avoir considéré que l'individu, malgré que tu le soignes, puisse souffrir. Mm-hmm. D'accord. Or, quand on est dans l'hôpital, quand on est malade, on souffre, on est dans un état particulier. Et la relation avec le soignant, le médecin, est très importante, pas simplement parce qu'il te soigne, mais aussi parce que l'individu est seul, dans la souffrance, isolé, a peur. Donc, la chose que je veux dire, quelle est l'importance de tous ces gestes, c'est-à-dire des gestes qui sont des gestes humains, mm-hmm. qu'un médecin, une infirmière, un soignant, dans son travail, accomplit. Quelle est l'importance? Est-ce que tu peux le définir? Est-ce que tu peux le peser?
Le mesurer.
Mesurer, oui. Et donc, justement, parce que tu as fait une parallèle entre Nisa, compétition entre le privé et le public, le définir. Parce que si moi, par exemple, je suis quelqu'un qui gère une clinique, comme je gère un call center, la valeur ajoutée, c'est ça. C'est pas simplement les actes, je le définis comme quelque chose de plutôt banal, parce que j'y trouve des compétences.
Eh bien, écoute, justement, j'ai fait un topo là, au mois d'octobre dernier, justement, je me suis lancé dans justement, l'impact médico-économique de la prise en charge de la douleur ou de la non-prise en charge de la douleur. Alors c'est sûr, d'abord on peut voir que on peut dans chercher basique avec tel matériel pour tel truc, on peut faire mieux en dépensant moins d'argent. Mais surtout, j'ai trouvé une littérature que je ne connaissais pas. C'est, en plus, c'est des littératures infirmières nord-américaines, canadiennes, qui montrent quand même qu'il y a fait. Alors, c'est un peu confus quand même, mais j'ai quand même trouvé plusieurs papiers. Quand même que finalement pourquoi les infirmières, les médecins appliquent les protocoles de la vie. Donc, c'est très bien, nous on passe notre vie dans les hôpitaux à les bonnes pratiques, à faire du militantisme, du positif, à dire un peu de ça, c'est-à-dire faire fois les protocoles et puis voilà, c'est pas là. C'est une stratégie de changement, bon, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident que si on après c'est retombé pour les plus. Donc alors dans ces papiers, ça disait un peu justement. Et il y avait un indicateur relativement simple, c'est combien de temps les patients, la durée moyenne de séjour. Et bien on s'aperçoit que justement, on trouve maintenant, et qu'il y a, on peut trouver des liens, et finalement, entre la durée moyenne de séjour et la prise en charge de la douleur. Plus la prise en charge de qualité, et bien les patients ils vont mieux, ils sont plus vite de réa, des choses comme ça. Ou alors, on a dû trouver aussi des choses que pourquoi une infirmière se met à appliquer les protocoles, les bonnes pratiques, pourquoi parce qu'elle est reconnue dans son service, elle a une bonne opinion, que la qualité relationnelle qu'elle vit ou qu'elle exprime a un impact médico-économique. Et finalement, on sait, nous, des années qu'on travaille sur cette problématique-là, on voit bien que la douleur, c'est un très bon indicateur de qualité dans les services de merde. Où les gens s'engueulent, où il y a plaqué un discours douleur, on va dire qu'on va aller peut-être nous écouter un peu, mais voilà. Par contre, le service gérant, où il y a des vrais patrons, enfin, vous voyez, il y a vraiment des esprits d'équipe, etc., il y a une cohérence, les gens, voilà, ils viennent travailler ensemble, et bien c'est évident que c'est dans ces services-là que ça va marcher, que l'évaluation de la douleur va se faire. Et donc là, vous voyez, par le biais de la prise en charge de la douleur, vous voyez, on peut peut-être rapprocher de manière un peu plus fine, justement, ce côté, finalement, c'est du gâteau pour nous, quoi. C'est-à-dire que plus plus on travaille dans de bonnes qualités relationnelles et humaines, bah, finalement, la durée à lui évaluer est probablement la durée d'hospitalisation plus courte.